Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à cette rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur Radio Okapi. Cette semaine, nous allons parler essentiellement infrastructure avec l'inauguration cette semaine par le président de la République du pont Bihambwe qui enjambe la rivière Mumba en territoire de Masisi dans le nord Kivu. Le président de la République a également procédé à la remise à la SNCC des 18 locomotives neuves avant de donner le coup d'envoi des travaux d'agrandissement et de modernisation de la route Kasumbalesa et de la voirie urbaine de Lubumbashi. Il a également inauguré le pont Lualaba. Dans cette émission, nous allons aussi parler des matières premières d'abord au sud Kivu où la commission provinciale de lutte contre la fraude minière a intercepté 5,5 kilos d'or estimé à plus de 250 000 dollars américains. Tandis qu'en Ituri, nous avons parlé cette semaine de la baisse des activités commerciales à Nyanya, consécutive à la chute du prix de l'or sur le marché international. Enfin, nous allons parler des investissements en Afrique centrale, dans la région des Grands Lacs et pourquoi pas en République démocratique du Congo, cela en perspective de cette grande conférence des Nations Unies sur les investissements qui aura lieu le 24 et 25 février 2016 à Kinshasa. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de la semaine. Nous avons le plaisir d'annoncer, de recevoir dans ce studio Laure Niassou. C'est une dame, la toute première, qui participe aux analyses et commentaires de l'actualité économique de cette semaine. Laure, bonjour et vous êtes la bienvenue à Panorama Économique.
Bonjour Daniel et merci pour l'invitation.
Et je signale que vous êtes officier du Bureau des Affaires Économiques au sein de la MONUSCO.
Alors, il n'y a pas encore un bureau en tant que tel, mais je suis économiste au sein de la mission de maintien de la paix, tout à fait.
Et c'est bien dit.
Panorama économique, le dossier.
Le premier sujet de la semaine. La SNCC a officiellement réceptionné lundi des mains du chef de l'État, Joseph Kabila, 18 locomotives neuves achetées par le gouvernement avec les financements de la Banque mondiale. 20 autres locomotives neuves achetées avec les fonds propres du gouvernement congolais sont attendues dans les prochains jours. Il ressort de différents discours de circonstances que la dernière acquisition de machines neuves par la SNCC remonte à 1976. Je vous propose d'écouter Ilukamba Sylvestre, il est le directeur général de la SNCC.
Les 18 locomotives neuves, là devant nous, font partie intégrante d'une commande de 38 locomotives neuves auprès du groupement des entreprises chinoises, dont 18 locomotives sur le financement du projet de transport multimodal pour un montant de 31 517 130 dollars américains et 20 locomotives neuves sur financement du Trésor de la République démocratique du Congo pour un montant de 33 756 294 dollars américains. Ces locomotives neuves sont destinées à assurer le transport de marchandises et de voyageurs sur l'ensemble du réseau de la SNCC, 3641 km, desservant 12 provinces sur le 26 dans la configuration administrative après découpage.
Le ministre des Transports a quant à lui reconnu le désengagement de l'État qui a conduit au déficit de la SNCC et voilà plus de 40 ans après, les chemins de fer peuvent redevenir l'épine dorsale de l'économie congolaise. On écoute le ministre Justin Kalumba Monangongo.
C'est donc depuis 41 ans que la SNCC et la nation congolaise tout entière attendaient un tel événement. Comme vous le constatez, en dépit du rôle central que le chemin de fer devrait jouer pour l'économie d'un vaste pays comme le nôtre, cette entreprise a longtemps souffert d'un désengagement de l'État. Désengagement qui a perturbé durant des décennies jusqu'au début des années 2000 avec comme clé de voûte un déficit d'investissement investissement de tous ordres. Les conséquences ont été sans appel. La SNCC, qui était longtemps considérée comme l'épine dorsale de l'économie congolaise, a entamé peu à peu sa descente aux enfers sur fond d'une triple insuffisance. Insuffisance en termes de la qualité de la voie, insuffisance en termes de recyclage du personnel, insuffisance en termes de matériel, tant roulant que de traction.
Et aussi, le ministre des Transports a formulé quelques recommandations à l'endroit des cheminots.
La seule exigence non négociable du gouvernement est que toutes les pratiques toxiques d'antan soient désormais bannies à la SNCC. Ces pratiques toxiques qui ont précipité la chute de la SNCC, que je dénonce ici de manière publique et non exhaustive, devant la plus haute instance du pays, en l'occurrence les chefs de l'État, sont, je les cite rapidement, les transports des clandestins dans les locomotives, dans et au-dessus des wagons de marchandises, communément connus sous l'expression des phénomènes Kaloulou au singulier, Touloulou au pluriel, vous connaissez ça. Les non-respect de la réglementation en matière de chargement des wagons, les non-respect de la réglementation en matière de limitation des vitesses, la conduite des trains sous l'emprise de l'alcool ou d'autres stupéfiants, le rançonnement ou les raquettes des voyageurs au détriment de la société.
Nous restons dans les infrastructures. Le chef de l'État a inauguré également le pont Bihambwe qui enjambe la rivière Mumba en territoire de Masisi, 56 km à l'ouest de la ville de Goma au Nord Kivu. Ce pont, construit sur fonds propres du gouvernement provincial du Nord Kivu à hauteur de 183 000 $ américains, est d'une capacité de 32 tonnes et mesure 14 mètres de long et 6 de largeur. Toujours cette semaine et à Lubumbashi, le président de la République a donné le coup d'envoi des travaux d'agrandissement et de modernisation de la route Kasumbalesa et de la voirie urbaine de Lubumbashi. Des travaux évalués à 63 000 $ d'après le ministre des Infrastructures. L'objectif est de désengorger cette route de la nationale numéro 1 par laquelle passent des centaines de camions en provenance ou en partance de l'Afrique australe. Le deuxième sujet de la semaine revient sur la baisse des activités commerciales à Niania en Ituri. Le ralenti observé par la Fédération des entreprises du Congo Niania est lié, entre autres, à la chute de prix des matières premières, dont celui de l'or sur le marché mondial et de celui du diamant sur le plan local. Par exemple, le carat du diamant est en effet passé de 350 $ américains à 250, tandis que 10 grammes d'or qui se vendaient à 400 $ revient aujourd'hui à 350 $américains. Nous, je vous propose plutôt cette correspondance de Delvin Waïsala qui revenait pour nous de Niania.
Niania était carrefour commercial ravitaillé par les axes Bunia, Beni, Iziko et Kisangani. Les flux de marchandises y est important, mais depuis début juillet, les affaires sont à baisse. Selemani Kagombe, premier conseiller de la FEC Niania, explique cette situation à ce terme. Ici, nous sommes au milieu au carrefour où nous vivons à partir des mouvements de ceux qui cherchent les matières précieuses. Mais rien ne marche aujourd'hui. Cette situation est consécutive à la chute des prix des diamants et de l'or. Toute personne qui a un petit colis préfère les garder pour ne pas vendre à perte. Le nombre de négociants de diamants ne fait que diminuer à Niania. Ladi Kalonda, un négociant local de diamants, explique cela par la chute des cours des matériels précieux.
Parce qu'on est à moins 25% normal des diamants, moins 25%. Et ici chez nous, s'il y a baisse des prix, automatiquement il y a changement de triage. Parce que par triage, c'est la façon de scinder les diamants. Parce que les diamants, des différents prix, ville, les poids. Mais pour le moment, nous constatons c'est la chute. Oui, le nombre a diminué parce que vous savez, si aujourd'hui quelqu'un avait par exemple 1 000 $ et il se retrouve avec 300 $, il faut qu'il parte. Parce que sinon, il va tout terminer.
Aujourd'hui, si j'amenais un carat, je peux le vendre à combien?
Bon, un carat, si c'est propre, bien taillé, il n'y a pas de difficulté. Aujourd'hui, vous allez vendre à 250. Auparavant, c'était 350. C'est vraiment qu'à gagner, considérable. Parce que si, dans une pierre, vous perdez 100 $, si vous avez acheté à 350, vous revendez à 250. Vous savez ce que ça fait.
Même ça des cloches du côté de la coopérative des négociants d'or de l'Ituri Konori. L'Onema Moukoua, son président.
Que s'il faut vendre les colis sur perte, on risque de perdre même le capital des négociants. Raison pour laquelle la plupart gardent leurs colis à la maison et n'ont pas la volonté de vendre ça. Ils vendent peut-être juste une petite quantité pour la survie.
Notez que l'or et les diamants qui sont commercialisés à Niania Centre proviennent des foyers miniers situés dans la forêt de la région. Bounia, Delve Waïsala, Radio Capi.
Merci Delve Waïsala, et c'est alors le moment de retrouver dans ce studio notre invité, je vous l'ai annoncé, Laure Niasso, économiste au sein de la MONUSCO. C'est avec elle qu'on va analyser, commenter l'actualité économique de la semaine. Laure, vous avez suivi cette inauguration en cascade par le chef de l'État dans les infrastructures, les ponts, les routes et les rails. On a été vraiment dans les infrastructures, mais ce qui importe, c'est la SNCC. Aujourd'hui, les enjeux du redressement des chemins de fer en RDC sont importants.
Tout à fait, c'est une question qui est cruciale, que c'est la question des infrastructures, et en particulier la SNCC. Et la SNCC est en fait le chemin de fer qui permet de relier l'Est à l'Ouest ou l'Ouest à l'Est. Comme vous l'avez indiqué, c'est l'épine dorsale, et par conséquent, redresser la SNCC, c'est continuer cette unité économique qui est primordial pour le pays. Alors, les difficultés que la SNCC connaît, c'est, et vous l'avez indiqué au cours du reportage, des difficultés d'ordre technique et financier, et il faut impérativement que le gouvernement, avec l'appui de la Banque mondiale, puisse arriver à surmonter ces difficultés-là. Et l'enjeu est de taille. Il s'agit en fait de désenclaver des zones de production. Alors, bien souvent, on pense aux zones de production minières, mais il ne faut pas oublier les zones de production agricoles. Et donc, parmi l'un des corridors que je crois qui se trouve être un corridor important à réhabiliter, c'est le corridor de l'Obito. Et pourquoi l'Obito ? Parce que c'est un corridor qui, dont le projet est estimé à 600 millions de dollars. C'est un corridor à dimension régionale. Et il s'agit de relier l'Angola, en passant par la RDC, à la Zambie. Alors, côté angolais, avec l'appui des Chinois, la partie de la voie ferrée a été réhabilitée. Et maintenant, l'enjeu est de pouvoir...
Du côté congolais.
Voilà, absolument.
De remettre également les rails en marche.
Absolument, oui. Absolument. Et ça, ça contribuera à désenclaver définitivement la partie, je dirais, sud du pays, mais surtout, ça permettra de faire cette intégration régionale par les rails.
Et bien au-delà du développement et du redressement du chemin de fer, je pense que le chef de l'État l'a bien compris, la question du redressement de toutes les infrastructures s'avère importante.
Oui, redresser les infrastructures, c'est participer à la croissance.
Et cela implique également l'énergie.
Absolument, parce que si nous prenons le cas du Katanga, vous pouvez désenclaver ou en tout cas améliorer la question de l'infrastructure, j'entends les voies ferrées, puisqu'on parlait de la SNCC, mais sans énergie,
en tout cas.
Alors ça réduit la capacité industrielle du pays. Or, la croissance d'un pays, tel que la RDC, s'appuie sur les matières premières et notamment sur le cuivre. Donc, développer le secteur de l'énergie, c'est très important. Et d'ailleurs, nous l'avons vu récemment avec la libéralisation du secteur de l'énergie, qui permet à de nouveaux acteurs, nouveaux opérateurs économiques, de venir en RDC et d'être déjà en RDC et d'investir dans le secteur de l'énergie.
Et dans le deuxième dossier de la semaine, c'était les matières premières, avec tout ce qu'il y a eu à Niania. Pour nous aujourd'hui, c'est un prétexte. Le prix du diamant a baissé, le prix de l'or a baissé, et les négociants jouent maintenant à la retenue, parce qu'au niveau international, cette matière a perdu un peu de valeur, et cela a des répercussions sur le marché local. Et c'est ça aussi l'occasion pour nous d'essayer un peu de parler. Là, à Niania, on parle plus de l'exploitation artisanale, mais vous êtes dans le secteur économique. Il serait aussi mieux de parler et de l'artisanat et de l'industriel. Qu'est-ce que vous connaissez, qu'est-ce que vous pouvez nous renseigner en ce qui concerne, par exemple, les cours aujourd'hui de cette matière première, l'or plutôt?
D'accord. Alors, s'agissant de l'or, on peut voir que dans les années 2000, le cours de l'or ou de l'once d'or a beaucoup évolué. Il y a eu un pic dans les années 2011-2012 et progressivement, on va vers une baisse. Ça, on peut pas le nier. Et bon, pour le cours de l'or, de l'once d'or au 31 juillet, il était à 1088 dollars l'once d'or. Donc, Évidemment, tout le monde est sensible à l'évolution du cours des matières premières. Si on est sensible sur les marchés d'échange qui se trouvent à l'étranger, définitivement, on l'est tout aussi en RDC, et le reportage est tout à fait édifiant sur ce fait. Alors, si les prix des matières premières évoluent à la baisse, et on a constaté qu'il y avait une baisse du cours des matières premières, notamment du pétrole, définitivement, ça a un impact sur les décisions que prendront les opérateurs économiques.
Et même surtout les industriels qui sont dans cette matière en RDC.
Tout à fait. Ceci étant dit, il faut dire que les projets industriels ont été lancés en RDC. Et une des choses qu'on peut constater, c'est que l'exportation officielle d'or a beaucoup augmenté en RDC. En tout cas, j'entends de manière officielle. La RDC a exporté en termes d'or industriel environ 4068 kilogrammes, ce qui a généré environ 51 millions de dollars, tandis que pour 2014, ce sont les chiffres qui viennent du ministère des Mines, de la commission de certification, on peut estimer qu'il y a environ 298 kilos d'or qui ont été exportés, et ce qui n'a généré que 10 millions de dollars. Donc on se retrouve face à 151 millions de dollars dans le secteur industriel, en termes d'exportation, ce que génèrent les exportations, et l'artisanat, 10 millions de dollars. Alors, d'où vient et comment peut-on expliquer cette hausse de la production d'or
industriel?
Voilà, absolument, c'est qu'il y a un certain nombre de projets industriels qui sont maintenant opérationnel, et on peut citer Bonro, qui est la société canadienne qui opère au sud Kivu, et puis à Maniema. Et définitivement, il y a la société Kibali Goldman qui se trouve en Ituri et qui aussi produit de l'or. En Ituri, il y a d'autres sociétés qui sont, à mon sens, prêtes, mais qui sont dans la phase d'exploration et qui, je l'espère, à leur tour, produiront de l'or et qui sera à terme exporté.
C'est-à-dire l'État congolais a besoin de faire beaucoup d'argent, c'est qu'il a aussi intérêt à encourager l'exploitation industrielle de l'or qui lui rapporte plus que l'artisanat.
Absolument. Et si on prend le cas de l'Ituri, la Sokimo, qui est la société des mines d'or de Kilomoto, est partenaire dans un certain nombre de projets industriels, notamment Kibali Gold Mine, dont j'ai parlé un peu plus tôt. Et donc je pense que ça, c'est vraiment une opportunité, c'est-à-dire l'importance de développer des projets industriels parce que ça permet de formaliser le secteur de l'or et ça permet aussi de contrôler un peu mieux ce secteur. Alors on revient sur une question qu'on va aborder ultérieurement.
Justement.
On ne peut pas développer le secteur de l'or industriel sans infrastructure. On en a parlé.
On en a parlé. Sans investissement.
Voilà, et sans énergie.
Et les investissements, c'est la partie qui va suivre après cette petite pause.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance, reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Autre information de la semaine en bref, la FBN Bank, l'ex-BIC, informe sa clientèle que toutes ces agences seront fermées tout ce week-end jusqu'au lundi 3 août suite à des travaux de mise à niveau des applications de gestion. Les distributeurs automatiques de billets et tous les autres services ne répondront que mardi 4 août. Elle rassure tout de même que les chèques et cartes de guichet portant des vieux numéros seront reconnus par le nouveau système. Et puis nous entrons et voilà qui va nous permettre d'entrer de plein fouet, de plein pied dans la deuxième partie des cette émission. Nous avons parlé des infrastructures, nous avons parlé de l'énergie, mais comment stimuler la croissance aussi bien des infrastructures ou bien même dans l'énergie, cela implique des investissements. Et cela tombe bien pour nous, les Nations Unies projettent une conférence internationale sur les investissements et cette conférence aura lieu à Kinshasa l'année prochaine. C'est une occasion pour nous de voir la capacité de l'Afrique à attirer les investissements directs étrangers, à mobiliser les ressources internes afin de soutenir sa croissance. Et bien alors, les investissements, d'abord commençons par cette conférence des Nations Unies parce que vous êtes économiste au sein de la mission. Pourquoi une conférence internationale sur les investissements?
Alors je crois que c'est une formidable opportunité à saisir pour les pays de l'Afrique centrale et pour les pays plus exactement de la CIRGL. Alors, l'intérêt de cette conférence, il faut bien rappeler, donner quelques chiffres. La CNUSED indique qu'en 2014, l'Afrique a eu une capacité d'attirer 54 millions de dollars américains en termes d'investissement direct étranger. J'entends le flux. Hein.
Oui.
Alors, c'est 54 milliards de dollars.
Oui.
Voilà, 54 milliards de dollars.
L'Afrique entière.
Absolument. Mais ça ne représente que 4,4% de l'ensemble des flux d'investissement direct étrangers.
Ce qui est très peu.
Oui, ce qui est faible, absolument, ce qui est faible. Mais maintenant, si on regarde la part de l'Afrique centrale, sur ces 54 milliards de dollars, l'Afrique centrale n'attire que 12,1 milliards de dollars. Alors, maintenant, vous allez me dire, mais qu'en est-il de la RDC? Alors, la RDC est un des pays clés de la région des Grands Lacs, de par sa taille, bien sûr, de par son économie, puisque pour le Fonds monétaire, en termes d'estimation, on peut dire que la croissance pour 2015 est estimée à 9,2%, ce qui est assez fort. Et donc, la RDC fait partie des 5 pays de la région des Grands Lacs qui attire le plus d'investissements
d'investissement étranger direct.
Oui, en termes d'investissement direct étranger, mais en termes de flux. Je précise bien en termes de flux. Qu'est-ce que ça veut dire en termes chiffrés? C'est environ 2 milliards 63 millions de dollars. Alors, c'est remarquable pour la RDC, sachant que dans les années 90, jusqu'en 2003, la capacité de la RDC à attirer des investissements directs étrangers était limitée. Il y avait effectivement une question de crise politique, mais aussi sécuritaire. Et donc, ce n'est qu'à partir du moment où on a eu les premières élections en 2006 qu'on a vu une reprise des investissements. Alors, pour 2007-2008, là, les investissements sont repartis, mais avec la crise financière internationale
de 2009,
les investissements ont chuté. Et on peut donc dire aussi que la reprise des investissements jusqu'à un pic de, on peut dire, 3 milliards de dollars ne s'est fait qu'en 2012. Et ça, c'est quand même assez significatif. Toutefois, il faut le reconnaître que lorsqu'on se trouve à la veille d'un processus électoral, les investisseurs étrangers font preuve d'un peu de prudence. Et donc là, on peut dire effectivement qu'en 2011, les investissements directs étrangers
avaient un peu baissé.
En termes de flux avaient légèrement baissé. Mais toujours est-il que cette conférence est une formidable, comme je l'ai dit, opportunité, parce que derrière les investissements directs étrangers, il s'agit de croissance et il s'agit de créer des emplois. Et donc, faire cette conférence en RDC, c'est la capacité pour le pays d'attirer des investissements directs étrangers, mais aussi de mobiliser les investisseurs nationaux
justement,
de façon à créer des emplois. Et ça, c'est permettre évidemment la réduction du chômage et améliorer la condition de vie de la population.
Et puisque vous avez parlé de la situation d'attrait des investissements directs étrangers dans la région de Grand Lac, et aujourd'hui on est en train de voir que la région des Grands Lacs, selon le tableau que vous avez dressé avec la période de guerre, de crise, à la veille des élections, les investisseurs qui prennent un peu, qui se réservent un peu. Aujourd'hui, on est dans une phase pratiquement préélectorale en RDC comme dans d'autres pays de la région. Est-ce que vous craignez que les investisseurs affichent le même comportement qu'on a observé avant 2001 ou encore avant 2006 ou encore légèrement avant 2011? Vous craignez quelque chose de ce genre?
C'est difficile de se prononcer sur l'avenir, mais il y a une chose qui est certaine. La RDC est une économie de rente dont l'attrait est très fort. Et personne ne peut le nier. Et ça fait plus d'une décennie que je suis en RDC, que je suis cette économie de très près. Et je pense que les investisseurs regardent avec grande attention ce qui se passe d'un point de vue politique et sécuritaire, ce qui me semble tout à fait logique. Ils le feraient dans n'importe quel autre pays. Mais la force de la RDC, c'est justement ce taux de croissance élevé qui donne un signal extrêmement positif de possibilités.
Et même la cotation par les agences de notation.
Oui. Absolument. Il faut dire, ça c'est une première aussi pour le pays, que Moody's et Standard & Poor's en 2013 ont procédé à la notation de la RDC. Donc pour Moody's, bien, la RDC fait partie du club des pays B3. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la RDC a une économie qui serait proche de celle de l'Argentine, de la Jamaïque, du Nicaragua. Toujours est-il, pour ce qui me concerne, que je trouve que la cotation par les agences de notation, c'est extrêmement positif. C'est extrêmement positif, c'est un signe encourageant, ça remet la RDC sur l'échiquier mondial en termes économiques.
Et puisque nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission, nous allons nous résumer. Lors, nous avons parlé des infrastructures avec tout ce qu'il y a eu cette semaine, des inaugurations par le chef de l'État et même la compagnie d'aviation, la Congo Airways, qui venait de réceptionner son tout premier avion. Tout ça, c'est le développement des infrastructures. Et nous avons parlé, infrastructures impliquent également les énergies, et pour développer les infrastructures et l'énergie, nous avons besoin des investissements, je pense, infrastructure, énergie, matières premières et investissement sont les quatre concepts qui ont guidé notre émission d'aujourd'hui. En petits mots par rapport à ces quatre concepts, et on va s'arrêter par là.
Bien, je crois qu'on revient sur un élément clé. Croissance, 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 croissance économique, développement économique, c'est ce que je souhaite à la RDC de tout mon cœur, et je vous remercie pour m'avoir permis de partager un peu d'éléments sur les questions économiques portant sur votre pays. Et je vous remercie évidemment pour votre invitation. Donc je ne peux que souhaiter davantage de croissance, une croissance inclusive, ce qui permettrait à plus de Congolais d'améliorer leur niveau de vie.
Merci Laure, et j'espère que ce ne serait pas la dernière fois que vous venez partager comme ça des connaissances, des analyses avec nous dans ce studio de Radio Capi.
J'ai bien compris votre message, je reviendrai. Merci.
Merci chers auditeurs, et c'est ainsi que s'achève Panorama économique de cette semaine. Je vous convie de retrouver cette émission toute la semaine sur www.radioocapi.net. Nous avons le plaisir de recevoir Laure Nyassou, elle est l'économiste au sein de la mission nationale Unis au Congo, la MONUSCO. Merci à elle infiniment d'avoir répondu à notre invitation, et à vous tous, très bonne fin de semaine à toutes et à tous, très bonne fête de parents à toutes et à tous.